Écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir ce soir. Vous venez d'entendre la chanteuse, enfin on va dire ça comme ça, parce que c'est pas un groupe, c'est Terrine. qui est en concert ce soir à la cantine de Belleville avec Petra Pied-de-Biche et Bagarre. Donc nous on va y aller après l'émission. Moi parce que j'ai été menacé physiquement de si j'y allais pas par Petra Pied-de-Biche, je la dénonce, voilà. Et puis donc concert ce soir à la cantine de Belleville, Terrine, Petra Pied-de-Biche et Bagarre. Nous on ira. Voilà, sauf Jean-Mathias, il a piscine.
C'est pas sûr encore. Voilà.
Et ce soir, Jean-Mathias, justement, qui vient de retirer sa serviette et tout ça de la table, parce qu'il se prépare, il prépare ses petites affaires, va nous parler de Nassim Nicholas Taleb, un auteur qui a écrit Le Cygne Noir, c'est un livre à la mode, paraît-il, sous-titré La puissance de l'imprévisible, et publié aux Belles Lettres. Voilà, donc Le Cygne Noir de Nicolas, de Nassim Taleb, on va aller plus vite. Hein. Voilà, alors. Jean-Mathias a décidé d'accélérer sa disgrâce auprès de nous, puisque il va nous parler finalement du livre d'un ancien trader. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Il l'est plus.
Il l'a été.
Alors oui, deux mots peut-être sur l'auteur d'abord, Nassim Nicholas Taleb. Alors c'est un auteur qui est d'origine libanaise. Et qui est effectivement un ancien trader, donc qui a été travaillé voilà dans la finance pendant pas mal de temps, et qui mais aujourd'hui rassurez-vous chers auditeurs, rassurez-vous chers camarades, il est plus
chers auditeurs,
camarades sans eux, et aujourd'hui il a abandonné ce beau métier parce qu'en fait il en avait un peu marre, non seulement évidemment du milieu, mais aussi en fait de tous les pseudo-théories sur lesquelles reposent en fait les calculs des traders et puis les prévisions financières. Et en fait, il exerce aujourd'hui une profession nettement plus honorable dans la mesure où il est professeur de philosophie des probabilités dans une université américaine. Et en fait, il passe le plus clair de son temps maintenant donc à publier des livres dans lesquels il se paye ses anciens collègues. Et pas seulement, c'est-à-dire qu'en fait,
maintenant qu'il a gagné beaucoup d'argent grâce à eux, il crache
la soupe. Alors je sais pas exactement si c'est une question de savoir à quel point il s'est enrichi ou pas. Il a pas l'air d'en tirer une gloire particulière. Après, il a effectivement touché pas mal d'argent quand il faisait ce métier-là. Bon, c'est un peu la norme. Mais du coup, voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas évidemment pas le trader, mais le philosophe des probabilités. Alors, j'indique tout de suite qu'en fait aujourd'hui, donc c'est un livre, Le Cygne Noir, qui est consacré à des questions qui tournent autour de la prévision et de nos capacités, des limites plutôt, de nos capacités de prévision et de la philosophie des probabilités. C'est pas un livre technique, mais c'est pas un livre non plus qui est directement politique ou sur des thématiques qu'on a l'habitude de traiter dans l'émission. Il se réclame, alors s'il faut faire un lien avec l'antenne sur laquelle on se trouve, il se revendique lui d'une forme d'académisme libertaire. Donc bon, il y a le mot est dans le livre, je l'ai trouvé, mais il est pas, et c'est questions et c'est les questions qui l'intéressent sont pas clairement politiques. Alors après, sur sa bio, encore deuxième information qui a son importance, il est issu d'une famille libanaise visiblement très très intégrée dans la classe politique. Il doit avoir un oncle ou un grand-père qui était ministre au Liban avant le conflit. Ça a son importance parce qu'en fait c'est quelqu'un qui donc commence donc Le Cygne Noir. C'est un livre qu'il a publié en 2012, qui fait suite à un autre livre qui s'appelait Le Hasard Sauvage, aux Belles Lettres également. Et il commence ce livre, voilà, Le Cygne Noir, sur en fait une anecdote qui est personnelle et biographique, où en fait il part de l'expérience qu'il a pu faire étant jeune, en fait adolescent, de la guerre du Liban. Et en fait il part de ce cas qui lui paraît assez significatif. Parce que, au fond, le Liban est, avant que se déclenche le conflit, une espèce de modèle de société cosmopolite, prospère, avec des liaisons très fortes avec la France, mais aussi différentes communautés religieuses, pas de fanatisme particulier, pas de problème de ressources, des liaisons commerciales avec le bassin méditerranéen qui posent aucun problème. Et donc, en fait, le conflit libanais, au cours des années 80, au moment où il se déclenche, en fait, il a surpris à peu près tout le monde, et notamment le milieu familial dans lequel lui évoluait, qui était un milieu supposé informé, puisqu'il faisait partie des classes dirigeantes du Liban. Et on a là un exemple qui l'intéresse au sens où finalement ce conflit fait partie de ces événements que personne n'a vu venir et qui a ensuite des conséquences absolument inextricables. Et ce qui l'intéressait également, c'est la réaction, pas seulement de sa famille, mais aussi finalement des gens qui connaissaient sur place et qui ont émigré suite au conflit. Et qui finalement ne se sont jamais remis de la surprise, hein, selon lui, qu'avait pu leur causer le déclenchement de cette guerre intercommunautaire au Liban. Et ce qui l'intéresse en fait, c'est les raisons en fait pour lesquelles l'événement effectivement a surpris tout le monde. Deux, pourquoi en fait il a continué à surprendre les gens deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans après son déclenchement, sans finalement que les gens puissent en quelque sorte intégrer la possibilité de cet événement-là, comme si tout le monde était sidéré par ça.
Ah oui, c'est des trucs récurrents, ça, dans l'histoire.
Bien sûr.
Et alors, pas de trucs sur les révolutions, parce que très souvent, les révolutions sont comme ça.
C'est pour ça que
la révolution française, elle a traumatisé les sociologues pendant un siècle.
Hein. Sans parler d'événements plus récents. On pense à mai 68, par exemple, à l'article de Vincent Ponté, là, le fameux sur la France s'ennuie, 15 jours avant le déclenchement des événements. Donc, c'est pour ça que ça me paraît pas inintéressant de présenter ce livre ce soir. Parce qu'effectivement, ça peut aussi donner lieu à des développements qui sont intéressants pour nous. Alors, le signe noir maintenant sur le titre, justement, c'est ce type d'événement-là qui fascine un peu Taleb. Le signe noir, c'est quoi? C'est finalement l'exception imprévisible. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'intéresse à cette espèce animale, le signe, on va rencontrer, croiser un certain nombre d'individus de cette espèce.
Tu peux expliquer le titre.
Qui sont blancs. Voilà, le signe est blanc. Et on a la tentation, évidemment, une fois qu'on a croisé 10, 20, 30, 40 signes blancs, eh bien, d'en tirer cette généralité comme quoi, effectivement, les signes sont blancs. Voilà, jusqu'à ce que, nous dit Taleb, on rencontre un jour un signe noir, c'est possible, ça existe, c'est rare, et imprévisible si on s'en tient à la base de ce qu'on a pu observer auparavant. Et donc, ce qui explique évidemment le titre de ce livre, le signe noir, c'est finalement le symbole pour lui de tous ces événements qui échappent, en quelque sorte, par principe, à toutes nos prévisions et à la manière dont on explique habituellement le monde et les choses.
C'est juste une induction ratée en même temps, le signe noir.
Oui, tout à fait. Alors, une induction ratée, on traduit pour les auditeurs qui ne sont pas spécialistes de ça. Au fond, effectivement, un des aspects de son propos, ça consiste à reprendre un vieux problème de la philosophie de la connaissance, qui est celui de ce qu'on appelle le problème de l'induction. Et ce qui est effectivement, le problème, pour résumer, c'est qu'à partir d'une accumulation de cas particuliers, on ne peut en réalité justifier aucune conclusion générale. Si je résume, c'est pas parce que le soleil s'est levé tous les jours jusqu'à aujourd'hui que je peux être certain qu'il se lèvera demain. Hein, parce que si je fais cette conclusion, eh bien je raisonne par induction. Et donc je tire une conclusion générale à partir d'une accumulation de cas particuliers et en réalité c'est un raisonnement qui n'est pas valide. Alors c'est un des aspects de son
comme si je disais 1, 2, 3, 4, 5, infini.
Exactement. Voilà.
Et évidemment, le passage de 5 à infini est absolument pas valable.
Pas garanti. Voilà. Et évidemment, c'est un problème qui est un peu vertigineux parce que, en fait, c'est un problème qui s'applique à peu près à l'ensemble de nos connaissances. C'est-à-dire que lorsqu'on sait quelque chose, lorsqu'on affirme quelque chose de manière un peu générale, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, ça peut être d'ailleurs sur des choses très, 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 très ordinaires, eh bien, la plupart du temps, c'est que précisément, on raisonne de cette manière-là par induction. Et un des avertissements de Taleb, c'est effectivement de nous rappeler que l'induction ne vaut pas certitude. Hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours, effectivement, dans l'induction, une espèce de vide, un creux, qui fait qu'on ne peut pas tirer de conclusion générale.
Alors, comme disait Russell, si le poulet avait une connaissance du problème de l'induction, il serait moins surpris quand le fermier qui la nourrit tous les jours vient l'égorger.
Exactement. Alors, c'est un de ses exemples favoris. C'est un des exemples qu'il utilise aussi, évidemment. Hein, donc, c'est le fameux poulet qui est nourri tous les jours par la main du fermier et qui, du coup, de manière tout à fait légitime, entre guillemets, en induit que le fermier est là pour le nourrir. Mais ça, c'est évidemment, ça marche jusqu'au 24 décembre, puisque le 25, la même main qui l'a nourri jusqu'à présent arrive, mais pas pour le nourrir, mais évidemment pour lui tordre le cou. Typiquement, on a affaire ici à un signe noir. Un signe noir, c'est-à-dire effectivement un événement qui est absolument imprévisible au vu de tout ce qu'on sait jusqu'à présent, au vu de tout ce que la logique nous conduit à conclure, et qui en même temps, d'après Taleb, détermine justement tous les événements importants de l'existence.
C'est-à-dire que tout ce qui est prévisible est sans importance.
Alors, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que l'idée, tout ce qui est prévisible, alors, c'est pas forcément sans importance, si j'essaie de respecter ce qu'il dit, disons que tout ce qui est prévisible finit par devenir sans importance, à un moment donné.
Puisque
c'est prévisible. C'est-à-dire que prévoir un phénomène, c'est effectivement considérer qu'il va probablement se produire, et à partir du moment où il va probablement se produire, ben, effectivement, on a réduit tout l'impact de surprise qu'il peut avoir sur nous, et du coup, effectivement, on s'organise en fonction, ce qui fait que son importance relative à notre vie diminue. Hein, alors ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont finalement assez banales. Alors il indique effectivement une bonne partie de la théorie de l'information qui finalement repose sur ce constat assez trivial. C'est l'idée qu'effectivement, par définition, un événement important, c'est un événement qui n'est pas prévisible, et donc un événement qui nous paraît avant peu probable. C'est-à-dire que par définition, ce qui est important dans notre vie, c'est ce qui est peu probable, et donc qu'on ne peut pas prévoir, ce qui va déjouer en quelque sorte nos inductions, et ce qui va déjouer notre connaissance. Hein. Alors, là où ça devient évidemment intéressant, me semble-t-il, c'est que l'analyse qui propose de ça, lui, il essaie de reformuler finalement ce problème-là en termes de probabilité, justement. En essayant de montrer que, finalement, il y a une formulation possible de ce problème-là, de l'induction, de la connaissance et du coup de l'imprévisibilité, qui peut être faite en termes de probabilité. Hein. C'est-à-dire que finalement, expliquer un phénomène comme on le fait habituellement par induction, eh bien, c'est assigner des probabilités, les plus grandes probabilités, aussi bien des événements qui sont produits par le passé. Par exemple, si j'explique quelle est la cause d'un événement, eh bien, ça revient à dire qu'effectivement, le plus probable, l'hypothèse la plus probable, consiste à dire que, par exemple, si l'eau dans ma casserole s'est mise à bouillir, c'est que la température du liquide avait atteint 100 degrés. Voilà. Donc effectivement, comment je fixe à la fois les événements sur lesquels je vais m'appuyer et les explications que je vais en faire, eh bien, en termes de probabilité, on peut le formuler comme ça. C'est-à-dire que la cause d'un phénomène, c'est une manière de penser la cause, c'est finalement l'événement le plus probable, hein, ou qui a produit le plus probablement cet effet que je constate. Et c'est comme ça qu'on fonctionne tout le temps. C'est comme ça qu'on fonctionne tout le temps, c'est là-dessus que repose finalement à peu près l'ensemble de l'édifice de nos connaissances. Donc ça veut dire qu'on peut effectivement, aussi bien nos connaissances quotidiennes, hein, là, je prenais l'exemple de faire chauffer l'eau dans une casserole, mais évidemment toutes nos connaissances théoriques, y compris les plus abstraites, en particulier lorsqu'il s'agit de prévisions financières, d'après lui, reposent finalement sur des raisonnements de ce type, alors que ça, c'est finalement...
Il reste à savoir si les prévisions financières sont scientifiquement fondées.
Alors, elles ne le sont pas, mais il y a deux points, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas scientifiquement fondées, d'après lui, tout simplement parce qu'il n'y a pas de science possible du genre de prévision que les financiers espèrent produire.
Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, en gros, l'économie, c'est pas l'astronomie.
C'est pas l'astronomie, sachant que l'astronomie elle-même...
Oui. Est sujette
à ce type de difficultés. Hein. Ouais. Mentionne par exemple, alors si on avance un peu dans le bouquin, c'est par exemple, un de ses auteurs, des auteurs sur lesquels il s'appuie, c'est Henri Poincaré, qui est donc un mathématicien, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, et qui a mis le doigt notamment sur cette difficulté-là, dans ce qu'il appelle le problème des trois corps. Ça, c'est une des grandes découvertes de Poincaré. Et Poincaré explique qu'en fait, si on applique les lois de la physique, notamment à l'astronomie, et pour essayer d'expliquer et de prévoir les mouvements d'un système dans lequel il y a deux planètes, il y a des chances pour qu'on arrive à des conclusions extrêmement probables sur les mouvements de ces planètes-là. Mais il suffit qu'il y ait le moindre grain de sable dans le système, le moindre grain de sable, et même le moindre quart de grain de sable, pour qu'en fait, nos prévisions non seulement finissent par dévier, jusqu'à un moment devenir absolument erroné. Voilà, c'est le troisième corps fait de toute façon que, ça c'est aussi une loi de calcul des probabilités, c'est que le calcul des probabilités classique, c'est-à-dire celui qui repose sur la loi des grands nombres, je vais en dire deux mots après, le calcul des probabilités classique, il peut effectivement déterminer ce qui devrait arriver selon toute probabilité, c'est-à-dire conformément aux moyennes qu'on peut calculer. Il peut nous décrire ça, il peut éventuellement nous aider à faire des prévisions de ce type.
La loi des grands nombres, je l'indique tout de suite, c'est imaginer que vous jetiez un dé à six faces plus vous le jetez, enfin, plus vous allez lancer le dé un grand nombre de fois, plus il y a de chances que vous approchiez de l'espérance. C'est-à-dire, plus il y a de chances que la répartition entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 soit à peu près égale. Voilà. Si le dé est équilibré. Et c'est ça le truc, c'est que, à la base, il faut présupposer que le dé est équilibré.
Exactement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance précise des conditions initiales du système sur lequel on travaille. Alors, dans le cas du dé, ce qui justifie la loi des grands nombres, c'est que, il n'y a pas de raison, a priori, pour que le dé soit truqué. Bon, s'il est truqué, d'ailleurs, ça sera une raison qui expliquera qu'on dévite cette loi des grands nombres. Mais si on a un dé qui n'est pas truqué, admettons, donc on suppose des conditions initiales, eh bien, si on lance le dé 2-3 fois, on sait pas trop sur quoi ça va tomber.
2-3 fois, ça peut faire 1-1-1.
Exactement. Mais si on le lance 500 000 fois, il y a de grandes chances pour qu'effectivement, on trouve des régularités. Mmh. C'est-à-dire que chaque face tombe à peu près le même nombre de fois.
Dans 18% des cas.
Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer les moyennes et donc la probabilité de tomber sur tel ou tel résultat. Voilà. Alors ça c'est effectivement la loi des grands nombres. Et le problème, nous dit Taleb, c'est qu'effectivement tout le calcul des probabilités et la plupart de nos connaissances, même si on le formule pas en termes mathématiques, repose finalement sur cette hypothèse-là. Alors le problème c'est que pour que ça marche, alors déjà ça marche pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui n'obéissent pas à la loi des grands nombres. Les signes noirs, je vais y revenir. Et puis surtout, même si on admet, si vous voulez, cette approche-là, ça suppose qu'on ait effectivement une connaissance tout à fait complète des circonstances de départ, c'est-à-dire effectivement de la structure du dé, de la structure de la table, de la résistance des matériaux qu'on utilise, du type de lancer qui va avoir lieu, etc. Et ça, c'est jamais le cas.
Ouais. Voilà. Même si c'est souvent un des présupposés de base de pas mal de modèles scientifiques, finalement.
Bien sûr.
C'est le démon de qui ? C'est pas celui de Maxwell, c'est celui de Laplace. Qui supposait que si un être avait une connaissance, comment dire, totale d'un système donné à un instant T, il aurait une connaissance totale de ce qui précédait et de ce qui suivrait. Et donc, c'est évidemment une espèce de dieu, omniscient. Mmh. Mmh. Mais en même temps, à chaque fois qu'on donne un modèle, il est fondé sur l'idée que on sait tout à la base.
C'est ça.
C'est comme ça que ce modèle fonctionne.
Exactement.
Si on introduit des variables, tout déraille.
Et alors ça, c'est un problème pareil classique en philosophie des sciences, c'est ce qu'on appelle le problème des clauses, alors c'est du latin, ceteris paribus, donc c'est l'idée que, effectivement, une loi vaut toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si effectivement on écarte éventuellement les conditions non prévues par la description initiale du système qu'on va expliquer. Et donc ça, évidemment, tout ça sont des problèmes très classiques en philosophie de la connaissance. L'intérêt, me semble-t-il, de Taleb, c'est de les reformuler donc en termes de probabilité. Ça, c'est assez éclairant. D'autant que son livre, en fait, regorge, il travaille pratiquement que à partir d'anecdotes. Ça a évidemment un lien avec le propos qu'il veut défendre, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une espèce de théorie ou un espèce de système qui arriverait à des conclusions assurées, il préfère, lui, s'en tenir justement à tous les cas dans lesquels les théories ne marchent pas.
Voilà. Forcément, vu son propos.
Évidemment. Alors, ça rend la lecture, du coup, assez accessible, plutôt agréable. Alors, en termes d'écriture, il y a parfois des répétitions ou des... Voilà. Mais par contre, effectivement, ça a le mérite d'être accessible, plutôt ludique. Donc, c'est quelque chose d'un aspect intéressant. Alors, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, évidemment, là, on parle de philosophie de la connaissance, de problèmes un petit peu généraux, etc. Évidemment, ça a des conséquences lorsqu'on applique ces considérations-là à l'histoire, par exemple à l'histoire sociale et politique. Et donc, ça veut dire que ça invite à mettre un sacré bémol. Alors, non seulement, évidemment, sur tout ce qu'on nous bassine en termes de prévisions économiques, ça c'est clair, mais aussi, évidemment, sur toutes les grandes théories de l'histoire qui nous expliquent, qui visent à justifier tantôt l'avènement de la démocratie, la fin de l'ère des révolutions, etc. Bon, par définition, une révolution, c'est ce que les théories disponibles à un moment donné prévoient pas. Et par définition, elles sont importantes. Voilà. Et par définition, donc du coup, c'est effectivement ce type du signe noir là. Alors, en gros, il permet à la fois d'écarter, si vous voulez, tous les fantasmes un peu de prévision et de planification qu'on connaît, mais il permet aussi effectivement de ménager de la place pour tous ces événements catastrophiques, si on peut dire. Il y a des catastrophes positives, mais les événements catastrophiques, c'est des événements qui ne peuvent pas effectivement se laisser capturer par une explication linéaire appuyée sur les cas connus jusqu'à présent. Et donc il a cette formule, il dit ça au début du livre, là. Il explique qu'en fait que la plupart des philosophies de l'histoire, ou des même y compris de la part des historiens, considèrent finalement que l'histoire rampe, hein, alors que si on regarde les choses de manière un petit peu lucide, on s'aperçoit que l'histoire elle ne fait que des sauts. Hein. Donc voilà pour la présentation un petit peu générale.
On va faire une pause musicale et on vous retrouve tout de suite après. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour cette deuxième partie. Vous venez d'entendre un morceau improbable d'Évariste, un chanteur, un ancien scientifique, matheux, qui a été viré, semble-t-il, de l'université française pendant la guerre du Vietnam. Voilà. Et donc, le sens de la chanson que vous venez d'entendre, son titre déjà, c'est la chasse aux bosons intermédiaires. Et il semblerait que le sens de cette chanson, c'était de faire des expériences sur le rapport de la musique avec les plantes. Enfin, le rapport des plantes à la musique, plutôt. Voilà, donc évidemment, ce morceau a été choisi par le signe noir des techniciens et des programmateurs musicaux qui s'appelle José. On n'arrive jamais à savoir ce qui va pouvoir bien passer comme musique. Et on a essayé de faire des courbes de Gauss et ça marche pas. Voilà, donc, donc tout ça pour amener le livre dont on vous parle, de Nassim Taleb, qui s'appelle Le signe noir, la puissance de l'imprévisible, et que vous pourrez trouver aux belles lettres si cela vous intéresse. Voilà, donc Jean-Mathias nous expliquait dans la première partie de l'émission, en quelque sorte l'approche classique des phénomènes scientifiques, historiques, humains, enfin des phénomènes en général, à travers des, justement la loi des grands nombres, c'est-à-dire le plus probable. Et donc, Nassim Taleb essaie de montrer que les phénomènes intéressants sont justement, en règle générale, imprévisibles. Alors Jean-Mathias, est-ce que tu peux préciser un petit peu tout ça ?
Alors oui, je vais peut-être dire deux mots, rentrer net un petit peu maintenant dans le corps du livre, notamment sur une distinction finalement que Taleb fait entre deux genres de hasard. Alors c'est pas là, ça c'est finalement ce qui a le cœur de son propos. Hein. C'est une idée qu'il développe déjà dans un livre plus ancien qui s'appelle Le hasard sauvage. Et dans lequel, en fait, il veut essayer de montrer que si on s'en tient, en tout cas, à ce qu'on peut, aux approches que permet le calcul des probabilités, on peut finalement, on a finalement affaire à deux types de hasards très très différents. Le premier type de hasard, c'est finalement un hasard qui va se trouver évacué par ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la loi des grands nombres. La loi des grands nombres, elle dit qu'effectivement, si on a un échantillon très important, eh bien, on voit émerger forcément une forme de moyenne, et que à mesure qu'on s'éloigne de cette moyenne, eh bien, évidemment, les probabilités qu'on rencontre un cas éloigné de la moyenne tombent, hein, de plus en plus. Plus on est loin de la moyenne, moins on a de chances de rencontrer un cas standard, un cas moyen. Donc la loi des grands nombres, finalement, elle a un côté un petit peu paradoxal, parce que c'est effectivement là-dessus que repose tout le calcul des probabilités, et en même temps, elle repose sur l'idée finalement que toutes les variations individuelles ou les cas particuliers, hein, finalement, se compensent les uns les autres. Hein, c'est-à-dire que la loi des grands nombres, elle émerge en quelque sorte, quelles que soient les variations ou quelles que soient les divergences locales ou individuelles qui existent par rapport à la moyenne. Ça veut dire que finalement, la loi des grands nombres et le calcul des probabilités classiques, il a tendance à essayer de mesurer le hasard en évacuant finalement la notion de hasard. Hein. C'est un paradoxe aussi du calcul des probabilités. Les variations individuelles finalement n'ont pas d'importance. Hein. Ça veut dire aussi, y compris les décisions individuelles, les comportements individuels, etc. Tout cela n'a pas finalement d'importance cruciale parce que, quoi qu'on fasse, hein, l'échantillon auquel on appartient sera explicable grâce effectivement à la valeur, à la résultante moyenne de toutes ces décisions individuelles ou tous ces comportements collectifs. C'est vrai effectivement dans le domaine des affaires humaines, c'est vrai aussi pour n'importe quel type de phénomène. Alors ça, c'est le hasard tel qu'il est envisagé habituellement par la théorie classique des probabilités et finalement par la plupart de nos connaissances. C'est-à-dire que on s'est donné des outils qui considèrent que finalement le hasard est réductible. Hein, des moyennes, et effectivement que ce qui est le plus probable, c'est ce qui correspond au cas moyen par rapport aux échantillons qu'on a pu observer jusqu'alors. Hein. Ça, c'est le hasard.
Un des paradoxes qui est donné par ça, c'est qu'on arrive à faire des programmes qui produisent des nombres au hasard. Ce qui est très très paradoxal si on y songe bien, puisque le programme justement va modéliser le hasard, mais à partir de là, si vous avez le programme, c'est juste du calcul et il n'y a plus de hasard.
C'est ça. Alors ça c'est le hasard classique, on va dire, un hasard qui se trouve réduit par le calcul et notamment par la loi des grands nombres. Le problème, et ce qui est intéressant aussi, bien sûr, d'après Taleb, c'est qu'il existe aussi, et il ne s'agit pas de le réduire, celui-là, une forme de hasard qui, lui, c'est ce qu'il appelle le hasard sauvage, ou le cas du signe noir, évidemment, est emblématique de ça. Un hasard qui, lui, pour le coup, échappe à la loi des grands nombres. Et c'est le cas de tous les événements, ou de toutes les situations, qui échappent, si vous voulez, à cette espèce de réduction, et représentent un hasard irréductible, c'est-à-dire qu'il est imprévisible, et qu'il a des conséquences incalculables, et significative. Voilà. Et ce hasard-là, d'une certaine manière, il n'est jamais capturé par le calcul des probabilités classiques, ce qu'on appelle habituellement aussi la courbe de Gauss. Alors vous savez, Gauss est un mathématicien, un des inventeurs du calcul des probabilités. La courbe de Gauss, c'est une courbe en cloche, si vous voulez, qui illustre assez bien cette loi des grands nombres, c'est-à-dire qu'effectivement, plus l'importance de l'échantillon augmente, plus la cloche, si vous voulez, devient pointue, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire plus la moyenne devient la plus probable, en quelque sorte. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe de Gauss, hein, et qui illustre très bien la loi des grands nombres.
Elle a été illustrée très tôt, au XIXe siècle, par les mesures qu'on faisait des appelés à l'armée et le calcul de leur la mesure de leur taille.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on avait évidemment un petit nombre de gens petits, un petit nombre de gens très très grands et un grand nombre de gens en voilà. même moyen.
Alors, il faut quand même voir tout ce que ça représente, effectivement, parce que là on parle effectivement de ça appliqué aux populations, mais c'est quelque chose qui nous est devenu extrêmement familier. Hein. Je veux dire, le fait de raisonner en termes de moyenne, c'est effectivement extrêmement structurant, je trouve, sur la façon dont on se pense, y compris dans la vie sociale, dont on pense les phénomènes sociaux, pas simplement en physique ou en mathématiques fondamentales. Hein. Donc c'est effectivement ça, c'est le hasard numéro un. Le problème, c'est qu'il existe aussi, il existe aussi un hasard deux, le hasard sauvage, qui lui échappe complètement à ça. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a un événement qui va devenir parfaitement significatif, c'est-à-dire qui va avoir des conséquences extrêmement fortes sur notre vie ou sur un système physique ou sur voilà, et qui lui est absolument extérieur en quelque sorte à cette loi des grands nombres et à cette conception du hasard qui a tendance à réduire le caractère imprévisible du hasard. C'est ce qu'on appelle les signes noirs et le hasard sauvage. Alors ça conduit, il a un peu le sens des formules de ce point de vue-là. Ça l'amène à distinguer finalement deux types de pays complètement différents. Alors, il y a un premier pays, c'est celui qui effectivement obéit aux courbes de Gauss et puis à la loi des grands nombres. C'est ce qu'il appelle le médiocristan. Alors, le médiocristan, c'est quoi? C'est effectivement celui où on a le plus de chances, effectivement, de rencontrer des phénomènes moyens et où on a très peu de chances, finalement, de rencontrer des phénomènes qui s'en écartent et qui échapperaient, du coup, aux prévisions qu'on peut faire en fonction des moyennes observées jusqu'à présent. Ça, c'est le médiocristan.
Alors, c'est des pays imaginaires, un peu comme la carte du tendre.
Bien entendu.
J'imagine, mais carte du tendre du matheux.
Exactement. Il dit, le problème, c'est qu'il existe aussi un autre pays, qui, effectivement, est ce qu'il appelle l'extrémistan. Alors l'extrémistan, c'est ce pays justement où le plus improbable est le plus important. Voilà. Et il dit que la plupart du temps, on vit plutôt en extrémistan. Voilà. Tout en étant persuadé de vivre dans le médiocristan. Mmh. Alors, ça l'amène à faire un certain nombre de distinctions. Donc, par exemple, on trouve ça à la page 67, là c'est présenté sous forme d'un tableau. Alors, il oppose évidemment, il essaie de définir ou de caractériser ces deux pays étranges. Alors, le médiocristan, il nous dit, finalement, c'est un pays dans lequel on rencontre un hasard modéré de type 1. L'extrémistan, c'est le pays du hasard sauvage, c'est ce qu'on vient de dire, donc voire extrêmement sauvage, met-il entre parenthèses. Au médiocristan, le membre type de cette catégorie, ou celui qui s'en approche le plus, c'est le médiocre, c'est-à-dire le moyen, celui qui se rapproche le plus du sommet de la courbe de Gauss. En extrémistan, le membre type de cette catégorie, celui qui s'en approche le plus, c'est soit le géant, soit le nain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de membre type. Dans le médiocristan, les gagnants remportent tous une petite part du gâteau. En extrémistan, on observe toujours un effet du type « le gagnant rafle presque tout ». En médiocristan, alors un exemple, c'est par exemple le public d'un chanteur d'opéra avant l'invention du gramophone, qui peut construire sa carrière, autrement dit, se construire un public progressivement en fonction du milieu social dans lequel il évolue, etc. Et qui va arriver à une respectabilité honorable, limitée en même temps à l'ère géographique, à laquelle il vit, etc. Donc ça, c'est l'exemple de l'individu du succès en médiocristan. Et puis, en extrémistan, c'est quoi? C'est le public d'un artiste d'aujourd'hui. D'un artiste reconnu, bien évidemment. Au médiocristan, ça se rencontrait plutôt à l'époque de nos ancêtres, nous dit Taleb. L'extrémistan, il se rencontre plutôt dans notre monde moderne.
Ah ouais?
Alors, on y reviendra.
Ouais, c'est discutable.
En médiocristan, le médiocristan est insensible aux signes noirs. C'est qu'effectivement, les signes noirs sont compensés par des phénomènes à la moyenne. En extrémistan, bien sûr, ils sont sensibles aux signes noirs. Le médiocristan est soumis à la gravité, nous dit-il. En extrémistan, il n'y a pas de contrainte physique à la nature potentielle d'un chiffre, nous dit Taleb. Le médiocristan correspond généralement à des quantités physiques, par exemple à la taille. L'extrémistan correspond plutôt à des chiffres, par exemple à la richesse. Le médiocristan est aussi proche de l'égalité utopiste que la réalité le permet. J'aime beaucoup la formule. L'extrémistan, c'est évidemment une des caractéristiques aussi, est dominé par une inégalité extrême, du type « le gagnant rafle tout ». Au médiocristan, le tout n'est pas déterminé par un seul et unique exemple ou par un seul et unique phénomène observé. En extrémistan, le tout sera déterminé par un petit nombre d'événements extrêmes. Au médiocristan, en observant un certain temps, on peut arriver à savoir ce qui se passe. En extrémistan, on met longtemps à savoir ce qui se passe. Le médiocristan est évidemment le pays de la tyrannie du collectif. l'extrémistan est le pays de la tyrannie de l'accidentel. Au médiocristan, il est facile de prévoir l'avenir à partir de ce qu'on observe et de l'étendre à ce qu'on ne voit pas. En extrémistan, il est difficile de prédire l'avenir sur la base du passé. Au médiocristan, l'histoire rampe. En extrémistan, elle saute. Au médiocristan, les événements sont distribués en fonction de la courbe en cloche. Et la distribution en extrémistan se fait entre les signes gris de Mandelbrot, je vais en parler, et les signes noirs qui sont complètement rigides, c'est-à-dire totalement imprévisibles. Alors voilà, une manière évidemment un peu provocatrice de présenter les choses, mais que résume aussi la même de la manière suivante. Alors ça c'est plus court, on va dire. Admettez l'existence des signes noirs, c'est-à-dire d'événements imprévisibles, ce qui finalement est assez facile à admettre quand on y réfléchit un petit peu. Il lui dit, résumez ça dans la formule suivante, tous les titis ne sont pas des totos. Voici un titi, est-ce un toto? Il dit, un test de QI de n'importe quel élève de primaire, vous répondrez,
voilà. Faut voir.
Et le problème, c'est qu'effectivement, on a tendance à répondre, nous, qu'il s'agit bien d'un toto. Alors, j'avance un petit peu dans la lecture du bouquin. Ce qui l'intéresse donc, ça va être ensuite d'expliquer, ou en tout cas de se demander pourquoi on a une espèce de tendance à revenir en quelque sorte contre l'évidence, c'est-à-dire contre effectivement le constat que les événements les plus importants sont ceux qu'on ne peut pas prévoir. Pourquoi effectivement notre manière de penser, on peut le dire comme ça, nous pousse systématiquement à revenir en médiocristan ou nous attire en quelque sorte immanquablement sur cette manière d'appréhender les phénomènes et de les expliquer. Alors, il voit là, en quelque sorte, la manifestation d'un certain nombre d'erreurs de raisonnement ou d'erreurs de comportement intellectuel, si on veut. La première, c'est ce qu'il appelle l'erreur de narration. Alors, l'erreur de narration, il la formule aussi en termes de probabilité. Je vous lis le passage quand même, parce que finalement c'est formulé de manière un petit peu technique, mais c'est assez facile à comprendre. Le constat sur lequel repose son analyse de l'erreur de narration, c'est que finalement le premier problème qu'on rencontre, c'est qu'obtenir des informations coûte toujours très cher. Que le second problème, c'est que stocker des informations coûte tout aussi cher. Alors il utilise ensuite un exemple pour illustrer ça et montrer en quoi consiste cette erreur de narration. Il nous dit, imaginez une suite de mots accolés l'un à l'autre de façon à constituer un livre de 500 pages. Si les mots sont purement aléatoires, choisis dans le dictionnaire de façon totalement imprévisible, vous ne serez pas en mesure de résumer, de transférer ou de réduire les dimensions de ce livre sans en perdre une partie significative. Il vous faut 100 000 mots pour emporter avec vous le message exact de 100 000 mots aléatoires lors de votre prochain voyage en Sibérie. À présent, imaginez le contraire. Un livre contenant uniquement la répétition de la phrase suivante. Le président 2, indiqué ici le nom de votre société, est un type chanceux qui s'est avéré se trouver au bon endroit, au bon moment, et qui s'attribue la réussite de la société sans tenir compte une seconde du facteur chance. Fermez les guillemets. Donc imaginez un livre répétant cette phrase qui reviendrait 10 fois par page pendant 500 pages. Le contenu intégral du livre pourrait être correctement compressé, comme je viens juste de le faire, en 37 mots au lieu de 100 000. On pourrait le reproduire avec une totale fidélité à partir de ce seul noyau. Si on retrouve la structure, la logique de la série, on n'a plus besoin de la mémoriser. Il suffit de la stocker. Et comme nous pouvons le voir ici, une structure, c'est évidemment plus compacte qu'une information brute. Vous avez regardé dans le livre et trouvé une règle. C'est ainsi que le grand probabiliste Andrei Nikolaevitch Kolmogorov, je n'ai aucune idée de savoir s'il s'agit d'un vrai probabiliste.
Kolmogorov, oui.
Il truffe aussi effectivement son livre de personnage complètement imaginaire. Donc c'est ainsi que le grand probabiliste Kolmogorov définit des degrés aléatoires. C'est ce qu'on appelle la complexité de Kolmogorov. Nous autres, membres de la variété humaine des primates, avons un besoin dévorant de règles. Parce qu'il nous faut réduire la dimension des choses afin qu'elles puissent entrer dans notre crâne. Ou plutôt, malheureusement, afin que nous ne puissions nous les enfoncer dans le crâne. Plus l'information est aléatoire, plus la dimensionnalité est importante et par conséquent difficile à résumer. Plus on résume, plus on introduit d'ordre, moins il y a de hasard. En conséquence, la condition qui nous fait simplifier les choses est aussi celle qui nous incite à penser que le monde est moins aléatoire qu'il ne l'est réellement. Roman, histoire, mythe ou conte, tous quatre ont la même fonction, ils nous évitent d'être confrontés à la complexité du monde et nous protègent du hasard. Les mythes mettent de l'ordre dans le désordre de la perception humaine et ce que nous ressentons comme le chaos de l'expérience humaine.
Alors, c'est très très Nietzsche, hein.
Ça peut être très nietzschéen.
De ce point de vue-là. Ouais. Tiens, en gros, les catégories de causalité, de prévision, justement, qui sont là pour nous préserver de la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est le chaos. Alors, je ne pense pas qu'il partage les présupposés métaphysiques de Nietzsche, mais il y a un côté très, très nietzschéen, quand même.
Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement le type d'exemple qu'il utilise, c'est-à-dire, effectivement, s'appuyant sur la théorie de l'information, des exemples aussi simples que ça. Une autre erreur récurrente, d'après lui, ça consiste à effectivement croire effectivement au calcul des probabilités classiques. Par exemple, imaginez que lorsqu'on va jouer au casino, on pratique vraiment des jeux de hasard. Voilà, ce qu'il appelle l'erreur ludique. Il dit qu'évidemment, en fait, on a affaire à un hasard qui est tout à fait sous contrôle, c'est-à-dire que les plafonds des sommes qui sont mises en jeu interdisent au casino de perdre. Hein? Donc là, effectivement, on est dans un domaine qui, en fait, n'est pas celui du hasard. Simplement, on continue à penser le hasard à partir de ce type de modèle-là, sur lequel repose toute la théorie des probabilités classiques, hein? Loi des grands nombres, etc. Et en l'occurrence, la loi des grands nombres, elle nous dit qu'un casino ne peut quasiment pas perdre. Voilà, sauf dans des films où le directeur a un moment d'absence et fait sauter le plafond pour James Bond ou pour George Clooney. Mais dans un casino habituel, le hasard n'a pas grand-chose à voir sur les revenus du casino, en tout cas. Hein, sur les vôtres, sans doute. Mais sur les revenus du casino, le hasard n'intervient pas.
Sur les vôtres, sans doute pas. On va peut-être faire une pause musicale pour que le cerveau des auditeurs se repose, parce que là, il doit être comme le mien, en train de fumer. Ouais. Voilà, et on vous retrouve après la pause. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous venez d'entendre un groupe de Détroit du début des années 70, et ce n'est pas Death, c'est Black Murder, et Murder ici, ça veut dire murder, donc meurtre. Et le morceau s'intitulait Prophète. Voilà, Jean-Mathias disait que voilà, c'était un groupe, ils avaient eu la malchance de naître 15 jours après Hendrix. Et ça, c'est le genre de choses, voilà, encore un signe noir. On n'y peut rien, c'est imprévisible et c'est comme ça. Alors, donc, on va reprendre l'émission, qui est consacrée à un ouvrage de Nassim Taleb qui s'intitule Le signe noir, la puissance de l'imprévisible, qui a été édité aux Belles Lettres. Voilà, donc c'est la troisième et dernière partie. À toi, Jean-Mathias.
Alors, je vais peut-être proposer cette dernière partie de continuer un petit peu notre voyage au médiocristan et en extrémistan, puisque c'est un petit peu ça la colonne vertébrale du livre, c'est-à-dire dans ces deux pays, l'un obéissant aux probabilités calquées sur la loi des grands nombres et sur la prédominance des cas moyens, et le second, l'extrémistan, sur au contraire l'importance des cas imprévisibles, extrêmes, non linéaires, pourrait-on dire aussi. Et pour continuer cette petite visite là des deux pays et des deux formes de hasard que nous présente Taleb, le deuxième étant évidemment le plus important d'après lui, je vais vous lire encore un petit passage du livre pour bien comprendre un petit peu la distinction qu'il propose. Alors ça se trouve page 216-217. Où il met en parallèle justement deux types de phénomènes. Il ne s'agit pas pour lui de dire que la courbe de Gauss, voilà, des grands nombres, n'a aucune valeur. Hein. Il dit simplement qu'elle n'a pas d'importance. Voilà, c'est plutôt ça le propos. Il nous dit, mais effectivement, sur un certain nombre de phénomènes, on peut modéliser ça comme ça. Exemple, hein, le caractère des erreurs de prévision, alors page 216, il nous dit, comme nombre de variables biologiques, l'espérance de vie est originaire du médiocristan. C'est-à-dire qu'elle est sujette à un hasard, mais à un hasard modéré. Elle n'est pas scalable, c'est un terme qu'il utilise, puisque...
On peut pas la mettre en étude sur une échelle.
C'est ça, puisque plus on vieillit, moins on a de chances de vivre. Selon les barèmes des assurances, l'espérance de vie d'un nouveau-né de sexe féminin se situe autour de 79 ans dans un pays développé. Quand elle atteint cet âge, si elle est en bonne santé, une femme peut vivre encore 10 ans de plus. À 90 ans, elle pourrait vivre encore 4 années et 7 dixièmes. À 100 ans, 2 ans et demi. Et si elle réussit par miracle à atteindre 119 ans, elle devrait encore avoir 9 mois de sursis. À partir du moment où elle dépasse l'âge attendu de sa mort, j'aime beaucoup la formule, le nombre d'années qui lui reste à vivre en plus décroît. Voilà.
Voilà. Donc voilà. Jeanne Calment, quand elle est morte à plus de 120 ans, elle avait moins 2 ans à vivre.
C'est ça, exactement. Alors voilà qui illustre la propriété essentielle des variables aléatoires liées à la courbe en cloche, la loi des grands nombres. À mesure qu'une personne vieillit, l'attente conditionnelle d'années de vie supplémentaires chute. Voilà. Plus on s'éloigne effectivement de l'espérance de vie moyenne, plus moins on a de chances de vivre longtemps. Bon. Il en va différemment, nous voilà en extrémistan, des aventures et des projets humains, dit Taleb. Comme je l'ai dit au chapitre 3, ils sont souvent scalables. Avec des variables scalables, celles qu'on trouve en extrémistan, on observe exactement l'effet inverse. Disons que l'on s'attend à ce qu'un projet s'achève dans 79 jours, le même chiffre que celui de l'espérance de vie des nouveau-nés de sexe féminin, mais en jours. Si le projet n'est pas terminé le 79e jour, on s'attendra à ce qu'il faille 25 jours de plus pour qu'il le soit. Mais s'il n'est toujours pas terminé le 90e jour, il devrait bénéficier d'environ 58 jours supplémentaires. Le 100e jour de 99 jours. Le 119e de 149 jours supplémentaires. Et si le projet n'est toujours pas achevé le 600e jour, on s'attendra à ce qu'il faille 1590 jours de plus pour qu'il le soit. Comme vous le voyez... Plus on attend, et plus on s'attend à ce que vous attendiez, dit-il. Mettons que vous soyez un réfugié, attendant de rentrer dans son pays natal, libanais par exemple. Loin de vous rapprocher du moment de votre retour triomphal, chaque jour qui passe vous en éloigne davantage. La même chose vaut pour la date d'achèvement de votre prochaine salle d'opéra. S'il devait être de 2 ans, et que 3 ans plus tard vous vous posez des questions sur ce délai, ne vous attendez pas à ce que le projet soit réglé rapidement. Si les guerres durent en moyenne 6 mois et que votre conflit se poursuit depuis 2 ans, attendez-vous à connaître encore quelques années difficiles. Le conflit israélo-palestinien a 60 ans et il continue. Et pourtant, il y a 60 ans, on le considérait comme un simple problème, entre guillemets. N'oubliez jamais que dans un environnement moderne, les guerres durent plus longtemps et sont plus meurtrières qu'on ne le prévoit généralement. Autre exemple, mettons que vous envoyez une lettre à votre auteur préféré, sachant qu'il est très occupé et qu'il répond au bout de 2 semaines. Si votre boîte aux lettres est toujours vide 3 semaines plus tard, ne vous attendez pas à recevoir un courrier le lendemain. Il vous faudra patienter 3 semaines de plus en moyenne. Et si 3 mois plus tard, vous n'avez toujours rien, ce qu'il vous faudra attendre, encore une année. Chaque jour qui passe vous rapprochera du jour de votre mort, mais vous éloignera de la réception d'une lettre éventuelle. Voilà. Alors, typiquement, les deux types de phénomènes auxquels correspondent les deux types de hasards qui intéressent Taleb. Alors, il existe aussi... entre les signes blancs, c'est-à-dire ceux du médiocristan, et les signes noirs, ceux qui sont totalement imprévisibles, ça c'est la petite partie un peu plus technique du livre, il existe aussi ce qu'on pourrait appeler des signes gris, nous dit Taleb, et il s'appuie là-dessus, en fait, alors sur un autre type finalement de modélisation mathématique, qui n'est pas celle des courbes de Gauss ou de la loi des grands nombres, mais celle de celui qui lui a appris les mathématiques. C'est un mathématicien d'origine française qui s'appelle Mandelbrot, qui est toujours en vie, donc qui est mort il y a 2 ans, et qui en fait a publié dans les années 70 des recherches mathématiques importantes sur ce qu'on appelle les courbes et les équations fractales. Alors, je ne rentre pas dans les détails de ça, j'en serais bien incapable. Mais on a là, ici, un outil mathématique, d'après Taleb, qui nous permet en fait de penser et de modéliser tous les phénomènes qui ne se produisent pas de manière linéaire. Alors, les phénomènes qui ne se produisent pas de manière linéaire, évidemment, ils sont intéressants par rapport au problème qui l'intéresse lui. C'est-à-dire que c'est tous les phénomènes qui ne se situent pas sur une courbe régulière, et qui, justement, font soit chuter la courbe brusquement, soit la font partir de manière exponentielle à un moment donné. Sachant qu'évidemment, on ne peut modéliser en général qu'une fois que tout cela s'est produit, et encore, si on a effectivement toutes les informations disponibles pour avoir une courbe suffisamment précise et rendre compte de ce qui s'est passé. Alors, ces outils mathématiques-là, qui tournent autour des fractions fractales, permettent... Alors, elles ont un avantage, évidemment, par rapport à la loi des grands nombres et au modèle de Gauss, c'est qu'elles permettent de faire de la place à de l'imprévisible, d'un point de vue gaussien. Hein ? Ce que nous dit Taleb, c'est que finalement, le principal défaut de l'approche en termes de probabilité classique et des lois des grands nombres, c'est que finalement, on a tendance à percevoir la réalité ou à construire une réalité qui rentre dans le modèle. C'est exactement ce qui se passe dans le domaine de l'économie et de la finance, d'après lui. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi il y a une préférence de tous les économistes, notamment les économistes notamment néolibéraux, pour des descriptions de marchés où les marchés sont à l'équilibre, où on cherche un équilibre, c'est parce que précisément un marché qui est à l'équilibre, où l'offre équilibre la demande, c'est un modèle qui peut être capturé en termes de courbe de Gauss. Voilà. Et donc, effectivement, il faut ensuite qu'on fasse rentrer à toute force la réalité dans ce modèle-là, parce que ça correspond à nos prévisions de calcul. Hein. Et évidemment, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a des angles morts partout, hein, qui sont ceux des crises. Au passage, Taleb est un de ceux, alors c'est paradoxal, on le dira, mais un de ceux qui avait suggéré la possibilité d'une crise imminente juste avant 2008. C'est un des rares à l'avoir fait. Hein. Donc ça lui a donné une célébrité, mais qui du coup, effectivement, lui colle un peu à la peau de manière
ambiguë.
Et il le dit lui-même, il dit arrêtez de me demander ce qui va les 10 prochains signes noirs des prochaines années, par définition, voilà. Alors, il y a peut-être une manière, donc au moins l'intérêt des modèles de Mandelbrot et des modèles fractales, c'est qu'ils admettent effectivement des ruptures de courbes ou des ruptures de moyennes et qu'ils produisent des outils mathématiques pour en rendre compte. Alors là, on aurait affaire donc à ce qu'il appelle les signes gris, c'est-à-dire des phénomènes qui échappent complètement aux règles linéaires qu'on peut fixer par induction habituellement et qui sont en même temps, qui gardent une part explicable dans la mesure où on peut en rendre compte par des fonctions ou des modèles non linéaires. Mais il tient, lui, à l'existence de signes noirs. C'est-à-dire, effectivement, en fait, si on peut résumer les choses, c'est que son point de vue, c'est celui du point de vue de la connaissance, en réalité. Hein. C'est-à-dire que on peut toujours éventuellement modéliser des phénomènes qui ne rentrent pas dans la loi des grands nombres ou qui vont avoir un caractère exceptionnel. Ça ne doit pas nous empêcher de reconnaître que, par définition, certains phénomènes échappent à nos capacités de connaissance et de prévision. C'est-à-dire que, du point de vue de la connaissance, on n'est pas Dieu. Voilà. On n'est pas Dieu, on n'a pas de description omnisciente du monde ou du système dans lequel on vit, quel que soit après le phénomène qui nous intéresse. Et du coup, par définition, il y a des phénomènes qui échappent forcément à nos capacités de prévision. Il se trouve que, comme ils échappent à nos capacités de prévision, ce sont ceux qui vont avoir les conséquences
les plus importantes
sur notre vie. Voilà. Et ça, c'est effectivement ce qu'il appelle la base de son scepticisme empirique. Voilà. Donc, un scepticisme au sens où, effectivement, il admet des limites à nos connaissances, et en même temps empirique au sens où ce qui l'intéresse, finalement, c'est d'essayer de respecter, finalement, le caractère singulier des événements sur lesquels on s'appuie pour expliquer les choses ou pour établir des règles. Attention à ne pas écraser un événement trop vite sous derrière une règle. Hein. Attention à ne pas le faire rentrer trop vite dans une équation qui nous paraît effectivement rendre compte des liens qu'il pourrait avoir avec ce qu'il y a autour. En fait, hein, cette équation, elle a toujours beaucoup plus de trous que ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est par exemple, peut-être pour terminer là-dessus, un dernier exemple justement sur le caractère limité de nos capacités. Et prends un exemple qui est pourtant très simple, qui n'est pas choisi au hasard, qui est celui effectivement qui est à la base de la mécanique classique, hein, et de la physique classique, c'est celui des boules de billard.
Ah oui.
Et de la manière dont effectivement les boules de billard peuvent nous être une espèce de modèle réduit en quelque sorte du mouvement des planètes ou des corps. Alors, il constate, et je terminerai juste là-dessus, hein, sur cet extrait-là, qu'on a là, en fait, une situation qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on pourrait croire. Hein. Il lui dit qu'on a affaire, dans ce cas-là, à une difficulté multiplicative qui génère un besoin croissant de précision dans les hypothèses dont on est incapable et qu'on est incapable de satisfaire. Et ce besoin, il peut être illustré à travers un exercice simple concernant la prévision des mouvements de boules de billard sur une table, c'est la page 238. Je reprends l'exemple calculé par le mathématicien Michael Berry. Si vous connaissez un ensemble de paramètres de base concernant la boule au repos, si vous savez calculer la résistance de la table, qui est élémentaire, vraiment,
c'est ironique,
et être capable d'évaluer la force de l'impact, il est assez facile de prévoir ce qui se passera lors du premier impact. Le deuxième impact, c'est déjà plus compliqué, mais c'est encore possible à prévoir. Il faut faire plus attention à ce que l'on sait des conditions initiales et faire preuve de plus de précision. Le problème, c'est que pour calculer correctement le neuvième impact, il faut prendre en compte la poussée gravitationnelle de quelqu'un qui se trouve à côté de la table. Le calcul de Berry recourt modestement à un poids inférieur à 75 kg. Et pour calculer le 56e impact, chaque particule élémentaire de l'univers, sans exception, doit figurer dans les hypothèses que l'on fait. Un électron aux limites de l'univers, dont nous sépare 10 milliards d'années-lumière, doit figurer dans les calculs, car il a des conséquences importantes sur le résultat. Voilà. Donc là, on a assez significatif de la manière dont il procède. On aurait pu parler aussi, juste, j'évoque deux choses, c'est que là, on a parlé des prévisions concernant l'avenir, et qu'il fait aussi un certain nombre de conclusions concernant nos explications sur le passé. On a exactement le même type de problème. Juste pour terminer, il y a cet exemple que j'évoquais juste avant de prendre l'antenne. Là. Il nous dit, par exemple, toutes les difficultés qu'on a évoquées, ça concerne les prévisions qu'on peut faire lorsqu'on a un cube de glace et qu'on veut essayer de prévoir comment il va fondre et quelle va être la forme de la flaque. Il nous dit là, on rencontre déjà les difficultés que je viens d'évoquer. Mais si vous essayez, à partir d'une flaque d'eau quelconque, d'essayer de reconstituer le processus de fonte de la glace qui a permis d'obtenir cette flaque, alors là, vous avez une explosion complète des scénarios, ce qui fait que notre connaissance du passé est probablement encore plus imprévisible que celle de l'avenir.
Voilà, voilà, donc c'était Jeudi Noir avec Jean-Mathias, José et Michel sur le signe noir de Nassim Taleb. Vous pourrez retrouver l'émission sur le site Gurdulu. Voilà, et vous pourrez nous retrouver à la cantine de Belleville au concert donc de Terrine, Petra Piedbiche et Bagarre ce soir. Et dans deux semaines, c'est José qui assurera l'émission. C'est une émission musicale spéciale Noël. Voilà. Et
avec Tino aussi.
Avec Tino aussi. Et puis, bah, à plus tard.